Il est 8h.
Je crois qu'il a raison. Nos relations sont au plus bas. Nous ne cherchons pas le conflit, mais à établir très clairement les conditions pour une meilleure relation avec la Russie.
Joe Biden face à Vladimir Poutine. Ce sera leur premier tête-à-tête. Aujourd'hui, à Genève, l'Américain a promis de dire aux Russes ses lignes rouges, cyberattaque, Ukraine, Biélorussie. Nous serons dans quelques secondes avec les correspondants d'Europe 1 à Moscou et à New York, en direct, bien sûr. La France et ses 100 milliards d'euros à dépenser pour la relance de l'économie. 36 milliards ont déjà été engagés. Information que révèle Europe 1 ce matin, tout comme le détail des sommes utilisées. Et puis, il fut question de fraises Tagada, de bière et d'une barbe un peu blanchie. Vous saurez ce qu'a dit Emmanuel Macron à Édouard Philippe hier en le faisant grand officier de la Légion d'honneur. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un peu de recul ce matin avec le grand rabat de France, Haïm Korsia. Que pense-t-il du climat politique hystérisé en ce moment? Et puis tiens, l'amateur de football qu'il est nous parlera aussi du match solide des Bleus hier, parce que ça fait du bien. Rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. La dernière poignée de main entre leaders russes et américains à Genève avait duré 7 secondes en 1985, Reagan-Gorbatchev. Alors aujourd'hui, en Suisse, dans la Villa Lagrange qui surplombe le lac Léman et qui sera protégée par 4000 policiers, y aura-t-il geste barrière ou bien main tendue entre Joe Biden et Vladimir Poutine? La durée de la rencontre est en tout cas prévue pour 4 à 5 heures.
Et nous sommes en direct avec les correspondants d'Europe 1 aux États-Unis et à Moscou. Alexis Guilleux et Paul Gogo, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alexis, côté américain, Joe Biden s'est montré très ferme ces derniers mois vis-à-vis de la Russie.
Oui, avec la volonté de se démarquer de Donald Trump, qui lui n'avait jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine. Alors depuis janvier, Joe Biden réinstaure un rapport de force entre Washington et Moscou. Il le répète, les États-Unis ne cherchent pas le conflit avec la Russie, mais répondront si Moscou continue ses activités nuisibles. Référence à l'ingérence électorale et aux récentes cyberattaques contre des infrastructures américaines menées par des groupes de hackers russes. Les relations entre les États-Unis et la Russie sont au plus bas, a admis Joe Biden ce week-end, et Vladimir Poutine est un adversaire de taille. Il l'avait même qualifié de tueur il y a 3 mois. Un conseiller de la Maison-Blanche a dit s'attendre à une réunion franche et directe entre les deux hommes. Et au cours de cette réunion, il sera aussi question des droits de l'homme, notamment la situation de l'opposant Alexei Navalny, actuellement emprisonné. Mais Joe Biden veut surtout obtenir une relation prévisible et stable avec la Russie, car le premier concurrent des États-Unis au XXIe siècle, ce n'est pas Moscou, mais bien Pékin.
Alexis Guilleux, en direct de New York pour Europe 1.
Paul Gogo, est-ce que vous confirmez, vous qui êtes à Moscou, la Russie a conscience d'être dans un jeu diplomatique à trois ?
Oui. Moscou n'est pas dupe parce qu'ici, on a beaucoup joué sur cette opposition entre la Chine et l'Ouest pour pousser les États-Unis à baisser le ton. Mais au Kremlin, on l'assure, Vladimir Poutine compte bien jouer le jeu de ce tête-à-tête, quitte à s'asseoir sur les accusations d'ingérence et même les grands mots prononcés par Joe Biden à son encontre. Le président russe n'a toujours pas digéré le « Poutine est un tueur » de Joe Biden. Pour autant, Moscou n'attend pas grand-chose de ce rendez-vous. Le fait qu'il ait lieu, organisé en point d'orgue du déplacement du président américain en Europe, c'est déjà une victoire, une reconnaissance de sa puissance. Et ça, les médias en font déjà leur chou gras depuis plusieurs jours. Les proches du président russe demandent toutefois si cette rencontre suffira à faire baisser les tensions entre les deux pays. Vladimir Poutine fera ce qu'il fait de mieux, prendre ce qu'il y a à prendre sans jamais faire le premier pas.
Paul Gogo en direct, notre correspondant Europe 1 en Russie. Merci à Alexis Guilleux. La couverture de ce sommet, c'est toute la journée sur Europe1.fr. Remontée de tensions au Proche-Orient pour la première fois depuis le cessez-le-feu il y a 3 semaines et demie. Des frappes israéliennes cette nuit sur la bande de Gaza en réponse à des engins incendiaires lancés depuis l'enclave palestinienne. Et puis en Algérie, 2 ans après le départ d'Abdelaziz Bouteflika, c'est encore le FLN qui sort en tête des législatives avec plus d'un quart des sièges, mais une abstention de 77%.
8h4 sur Europe 1. C'était le mot-clé hier soir, mansuétude. Autrement dit, un couvre-feu moins strict le temps d'une soirée de football.
Oui, peu importe les buts français invalidés pour hors-jeu, peu importe les fautes allemandes non sifflées, ce résultat 1-0 pour un premier match de l'Euro et tout de même face à l'Allemagne a donné des airs de fête à tout un pays vraiment déconfiné. Jean-Jacques Herry.
Une victoire des Bleus et une température estivale, voilà de quoi donner envie de jouer les prolongations en terrasse. Et tant pis pour le couvre-feu.
Ça fait quelques mois que je l'oublie, je vous avoue. Mais oui, là il est quelle heure là ?
3h10.
Le bar nous a dit, ah, vous pouvez rester encore un petit peu. Non mais ce qui est marrant c'est que tu vois, genre là les gens étaient en mode, on croyait qu'on avait gagné la finale de la Coupe du Monde tellement les gens étaient contents d'être dehors et de regarder un match de foot.
Mais très vite, les chaises s'empilent et les tables regagnent l'intérieur des cafés et ça, ça pousse à rentrer.
On traîne pas trop, on vient de finir, on est sorti un peu en retard, on est à 10 minutes, on sait qu'on va pas traîner, à 23h30 tout le monde sera au lit, voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
Et pour ceux qui habitent plus loin, aucune inquiétude non plus.
En fait le couvre-feu, bon c'est vrai que c'est un peu flex quoi, c'est un peu flexible, on le sent plus trop quoi en tout cas.
Faut voir les policiers dans Paris, vous voyez beaucoup de policiers ici et non il y en a pas, hein, donc voilà.
Et pourtant il y a au moins une voiture qui patrouille discrètement dans le quartier, ce patron de bar vient d'ailleurs de la voir.
Même les keufs ils sont mignons quand même. Ils sont mignons, tu vois, ils sont passés, ils ont vu qu'à 23h ça fermait, 23h05, ils sont tranquilles. Mais on a hâte que ça soit normal, quoi.
Sur la place voisine, certains refusent encore d'aller se coucher, refont le match au sens propre. Les cris et le bruit du ballon résonneront encore une bonne demi-heure au pied de l'église.
Alors, à Munich, où se jouait la rencontre, on retient aussi que les Bleus n'ont finalement pas mis un genou à terre contre le racisme. Et ce, après une journée de polémique politique, on retient également ce que les téléspectateurs n'ont pas vu. Ce parapente motorisé qui pénètre dans le stade par les airs.
Une action de Greenpeace contre le pétrole qui ne s'est pas passée comme prévu, reconnaît l'association. Jean-François Pérez, l'un de nos envoyés spéciaux d'Europe 1, a tout vu.
Il était 20h58 quand le drame a failli se produire. Les supporters étaient en train de chanter, les joueurs sur la pelouse, prêts à donner le coup d'envoi. Personne ou presque n'a prêté attention à ce drôle d'engin qui semblait, comme cela arrive souvent en football, descendre du ciel pour apporter le ballon du match. L'ULM en question a heurté un câble tendu sur le toit du stade. Il a tangué dangereusement, frôlant les tribunes basses sur plusieurs dizaines de mètres avant de terminer sa course folle sur la pelouse près de la ligne de touche. Pendant que les premiers secours s'affairaient, on a pu voir le message inscrit sur le parachute. Un message de Greenpeace, à bas le pétrole. Au final, au moins deux blessés légers, un technicien et un officiel. Greenpeace se dit désolé, l'UEFA déplore un acte inconsidéré. Le militant de l'ONG a été arrêté dans la foulée par la police allemande. La question de la sécurité dans les stades est une nouvelle fois posée. Munich, Jean-François Pérez, Europe 1.
Jean-François, que l'on retrouve en direct dans une demi-heure pour le journal de l'Euro.
Un nouveau cap encourageant. Moins de 2000 malades du Covid en soins intensifs en France. C'est une première depuis 8 mois. Les hôpitaux ont moins d'activité, les entreprises en ont plus peu à peu et le plan de relance est censé tirer l'économie vers l'avant.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Sur les 100 milliards d'euros de ce plan, vous nous révélez en exclusivité pour Europe 1 le montant qui a été dépensé jusqu'à présent.
Alors jusqu'à présent, l'État a engagé 36 milliards d'euros exactement sur les 100 prévus. Comment a été dépensé l'argent ? Eh bien déjà dans ma prime Rénov qui permet de subventionner les travaux d'isolation des particuliers. Pour vous donner une idée, il y a eu 315 000 demandes en 5 mois contre moins de 200 000 sur l'ensemble de l'année précédente. Il y a aussi la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les travaux ont commencé sur 1500 bâtiments, 170 projets sont même terminés. Sur ces 36 milliards, 1,5 milliard a également été affecté aux entreprises pour les aider à développer de nouvelles lignes de production, par exemple, notamment dans l'automobile et l'aéronautique. Enfin, 400 millions d'euros ont été attribués à des entreprises pour les aider à décarboner leur activité. ArcelorMittal, par exemple, a bénéficié d'une subvention pour rendre ses hauts fourneaux de Fos-sur-Mer plus propres. Au total, selon Bercy, ces aides devraient permettre à notre industrie de réduire ses émissions de CO2 d'1 million de tonnes par an, l'équivalent d'1 million d'allers-retours Paris-New York en avion.
Carole Ferry, et cette information que vous nous révélez est déjà sur Europe1.fr.
Vous restez avec nous, il n'y avait pas de micro ni de caméra hier à l'Elysée, mais vous saurez ce que le président a dit à son ex-premier ministre Édouard Philippe, décoré en petit comité. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Comme ceux qui ont passé plus de 2 ans à Matignon, Édouard Philippe a été fait grand officier de la Légion d'honneur hier. Cérémonie à l'Élysée, on guettait des allusions politiques. Aurélie Arbemont est allée glaner pour Europe 1 des confidences sur le discours du président, où il a même été question de pilosité.
Votre barbe est devenue le visage de la crise. Impossible pour Emmanuel Macron de ne pas revenir sur la période du Covid et la barbe, chaque jour un peu plus blanchissante, d'Édouard Philippe. Le chef de l'État n'a pas manqué non plus de retracer leurs 3 ans côte à côte. On ne se connaissait pas avant 2017, mais on s'est bien trouvé, rendant hommage à la loyauté du Havrais et vantant une collaboration utile pour le pays. et agréable. Emmanuel Macron ne s'est pas contenté de lire le CV de son ancien Premier ministre. Il en a dressé un portrait plus personnel, marqué par un amour de la Corona et des fraises Tagada. La lune de miel est de retour, s'amuse un des invités. Car mine de rien, Emmanuel Macron l'a congédié l'an dernier, mais sans le mettre à la retraite. Puisqu'en le décorant, le chef de l'État a eu ces mots « Vous avez encore beaucoup à apporter à la République ». Un proche d'Édouard Philippe Bois du Petit-Lait, il lui donne des perspectives d'avenir qu'il ne donne à personne d'autre.
Et pendant ce temps-là, Jean Castex était encore cloîtré à Matignon pour son dernier jour d'isolement comme cas contact de son épouse. Il a à nouveau été testé négatif hier.
Dans le monde de l'entreprise, et si on oubliait les voitures de fonction réservées aux cadres dirigeants quand un vélo peut faire l'affaire et pour tous les salariés?
Oui, plus 10% d'augmentation de la pratique du vélo depuis le début de la crise sanitaire, plus 67% à Paris et de plus en plus de salariés, Aurélien Fleureau, qui se voient proposer donc un vélo de fonction.
Oui, c'est le cas dans ce cabinet de conseil parisien dont Louis-Grégoire Logre est associé. Une vingtaine de vélos électriques viennent d'être livrés. La moitié de l'entreprise Agama va donc en profiter. Il montre l'exemple et voit même dans cette évolution une manière d'attirer des recrues.
Moi-même qui habite en proche banlieue, je vais venir en vélo. Donc j'aurai 11 km à faire tous les jours. On en a parlé avec des potentiels futurs collaborateurs qui ont trouvé l'idée très intéressante et qui étaient eux-mêmes intéressés. Donc c'est vrai qu'en termes d'image aussi, pour recruter, je pense que c'est un atout en plus qui peut nous permettre de nous différencier.
Pratique pour les multiples déplacements chez les clients, cela correspond à la politique RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, sans oublier l'avantage fiscal, moins 25% d'impôts pour un engagement de 3 ans. Et c'est aussi une manière de créer du lien social, explique Jérôme Blanc, cofondateur de Team Sport, qui propose uniquement des vélos de fonction et dont l'activité a été multipliée par 10 depuis un an.
Il n'y a plus de hiérarchie, contrairement à la voiture de fonction qui, elle, était réservée plutôt au cadre supérieur ou à la direction. Certains de nos clients nous ont avoué que ça a créé une communauté. Les gens qui ne se parlaient pas auparavant, aujourd'hui se parlent de leur expérience vélo. Et ça fait du bien dans une entreprise aujourd'hui où les gens ne se sont pas vus depuis de nombreux mois.
Et son principal casse-tête en ce moment, c'est de trouver suffisamment de vélos pour répondre aux demandes des entreprises.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1.
Merci beaucoup François Geffrier. Je le dénonce. Il vient à vélo le matin, François Geffrier, au boulot. Même en hiver, je l'ai constaté.
Avec un petit éclairage. Vous le ferez, vous, de 40 km, vous êtes combien, 50 km?
Plus 75. Oh, merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, l'invité de Sonia Mabrouk, Haïm Korsia, grand rabbin de France. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, il vient d'être réélu grand rabbin de France, Haïm Korsia.
Bienvenue à vous et bonjour Haïm Korsia.
Bonjour.
Alors mes premières questions s'adressent ce matin aux passionnés de football que vous êtes depuis tant d'années. Vous avez toujours vanté, Haïm Korsia, les valeurs d'engagement et d'effort. Est-ce que ce fut le cas hier avec des bleus méritants et solides?
Et ben voilà. Et des valeurs de solidarité. C'est-à-dire qu'une équipe, ce n'est pas une personnalité extraordinaire, même si c'est mieux d'en avoir, mais c'est un collectif. Et là, on l'a démontré hier. C'était un match plutôt beau à voir, avec des mouvements dans tous les sens. Et pourtant, ça aurait pu tourner dans un sens ou dans l'autre de manière très claire. Et il y a eu une vraie tension, parce qu'il y a eu une sorte de volonté commune, volonté collective, où chacun a pris sa part. C'est pour moi une allégorie de ce qu'on devrait faire dans la société.
Chacun
prend sa part.
Et, oui. Et finalement...
Et en plus, on gagne, comme diraient les commentateurs sportifs.
Et à la fin, on gagne.
Le principal, c'est les 3 points.
Et finalement, pas de genoux à terre hier pour les Bleus. Certains politiques avaient dénoncé ici même sur Europe 1 un geste importé des États-Unis du mouvement Black Lives Matter. Les Bleus ne l'ont pas fait. Vous dites tant mieux, il ne faut pas de geste qui divise, ou alors c'est un geste symbolique comme un autre?
Je crois que le plus beau geste, c'est une Marseillaise chantée ensemble. Vraiment, c'est quelque chose qui unit, au-delà des 11 footballeurs sur le terrain, c'est quelque chose qui unit l'ensemble du pays. Moi, ça m'émeut toujours. Je suis pratiquement à me lever chez moi dans mon salon. Mais, parce que je trouve qu'il y a là quelque chose qui concerne tout le monde. Et un geste, quel qu'il soit, un autre geste, a toujours une dimension pour quelque chose. Alors évidemment, parfois, c'est important de marquer quelque chose, de dire quelque chose. Mais je trouvais que c'est assez juste de dire que c'est un geste qui était dans un contexte tout à fait particulier aux États-Unis et qui n'a pas le même écho en France. Le seul geste vraiment commun, partagé, c'est la Marseillaise en tout cas. Si on peut en plus l'entendre à la fin de la compétition, c'est pas plus mal.
C'est encore mieux. Pour clore cette séquence, pour autant, Haïm Korsia, permettez-moi un peu d'ironie ce matin. Vous n'avez pas prié pour la victoire des Bleus, non. La foi, vous la gardez pour des circonstances très différentes.
Bon, sur un malentendu, il peut y avoir une petite prière du cœur, mais voilà.
Mais les prières du cœur ont probablement donné ce résultat. Alors, malgré cette victoire qui nous rassemble, le contexte actuel reste tendu et surtout, c'est un climat politique souvent hystérisé, des violences aussi qui minent notre pacte républicain. De quoi cela est-il le nom ou le révélateur, selon vous ?
C'est une grande angoisse. Je pense qu'il y a à la fois une angoisse, une colère. Il y a aussi une sorte d'inconnu, connaissance dans l'inconnu. Moi, je ne vais pas jouer au bon Dieu d'art, mais j'ai des références dans la Bible qui me permettent de retrouver ces mécanismes humains. Lorsque les Hébreux arrivent devant la porte de la Terre Sainte, ils ont peur. Ils ne connaissent pas cette Terre Sainte dont on leur parle, le lait, le miel, cool, mais enfin, c'est quoi techniquement ? Ils envoient des explorateurs, et les explorateurs reviennent et disent « Formidable, mais c'est inquiétant. » Et juste ce « mais c'est inquiétant », ça a fait que le peuple a erré 40 ans dans le désert. Et je pense que l'engagement des politiques, c'est pas nous dire c'est inquiétant, c'est catastrophique, c'est terrible, c'est violent. Oui, c'est le cas peut-être. Mais qu'est-ce qu'on veut faire ?
Ils sont trop dans le constat, il n'y a pas cette vision aujourd'hui de la France.
On manque de vision. Quelqu'un qui nous dise, on l'apprend dans le livre d'histoire maintenant, quelqu'un qui nous dise, il y aura des sangs et des larmes, mais on va y arriver. On a un projet commun. Là, on est uniquement dans une analyse. Alors, on analyse dans la presse, dans les journaux, et ça, c'est bien. Mais on l'a aussi dans les chaînes continues. Ça, c'est moins bien parce que c'est répétitif, c'est anxiogène, c'est une réalité. Et puis, on n'a personne qui nous dise, mais voilà l'horizon. On va essayer de le tracer, cet horizon.
Alors, il y a la personne et le message. Il y a le messager et le message. Alors, quel sursaut ? J'ai posé cette question il y a quelques jours à M. Corsia, à Elisabeth Badinter. Je lui ai dit, mais après la gifle au président, comment faire en sorte de rétablir, c'est peut-être ça le secret, l'autorité ou tout simplement le respect ? Le respect du policier, le respect de l'enseignant, ce qui fait sens dans notre pays.
D'abord, je crois qu'il y a... Pardon, mais il y a évidemment l'immédiateté de la sanction. Et la véritable fermeté de la sanction. On ne peut pas être dans une explication, on ne peut pas être dans une justification permanente de choses inadmissibles. Il y a des choses qui permettent à une société de tenir, notamment le respect. Je ne dis pas avant c'était mieux, il y avait une autre sorte d'irrespect. Sauf que le détenteur de l'autorité a cette autorité en notre nom à tous. Mmh. Et donc, quand symboliquement le président de la République reçoit une gifle, le simple fait d'aller demander à celui qui l'a donné « Pourquoi tu as fait ça ?» et « Quelle est ta colère ?» Alors quoi ? Parce qu'il est en colère, donne une gifle. Quand il est très en colère, il donne un coup de poing. Quand il est très très en colère, il tire sur le président.
Oui, mais encore faut-il que le dialogue soit encore possible. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'outrance qui prend place finalement ?
Oui, mais parce que notre système fait qu'on doit résumer sa pensée soit en 140 signes, soit en une punchline, une phrase qui va marquer, qui va être reprise. Et je pense que cette violence-là, elle est aussi dans les rapports humains. On ne laisse pas le temps ni d'expliquer les choses, ni de se parler. On vous regarde, évidemment, on vous agresse immédiatement. Il y a tout de suite une procédure judiciaire.
Oui,
il y a,
on peut agresser pour un regard, pour un simple regard. Oui. C'est ce qu'ils appellent les actes gratuits. Mais alors, vous soulignez ce matin à M. Corsia une forme de responsabilité collective, mais il y a aussi, sur le plan politique, les messages à envoyer. J'ai noté que le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, le Consistoire, appelle, je cite, à voter massivement, vraiment, à se mobiliser lors des élections des deux prochains dimanches et à faire barrage, disent-ils, je les cite, aux partis extrémistes que sont, selon eux, le Rassemblement National et la France Insoumise. Ça, c'est une consigne de vote claire et nette. Est-ce que vous y adhérez ?
J'ai appelé mes confrères des autres religions pour faire un peu le point hier soir. Globalement, tout le monde, en tout cas ceux que j'ai pu contacter immédiatement, mes amis musulmans, mes amis protestants, étaient très clairement pour appeler à voter. C'est quelque chose qui fait souffrir tous les républicains. On s'est battu pendant des siècles pour pouvoir voter, que chaque personne soit une voix. Cette abstention, elle peut venir de diverses raisons. Moi, je ne suis pas là pour expliquer cela. Vous avez des politologues qui le font bien mieux que moi. Mais c'est la dénégation de l'engagement. Or, l'engagement, c'est un moment, le plus bel engagement, c'est le vote. Et donc, il y a une telle défaite de la volonté de voter.
Ce serait une défaite. L'abstention, c'est une défaite.
L'abstention, c'est une défaite. Mmh. D'abord parce que mécaniquement, ça donne plus de poids à des gens qui sont surmotivés, alors que ça ne représente pas l'ensemble de la population. On donne des pourcentages qui sont les pourcentages des votants, mmh, des votes exprimés, non pas des citoyens et des citoyennes. Donc, de mon point de vue, l'enjeu majeur, c'est faire voter les gens. Votez comme vous voulez.
Ah, là, j'y vois une nuance à M. Corsia. Ce n'est pas ce qui a été dit par les institutions juives.
Mais parce qu'elles ont raison. Honnêtement, elles ont raison.
À mettre sur le même plan le Rassemblement national et la France insoumise.
Elles ont raison de dire que, d'abord, partout dans le monde, chaque fois que les extrêmes ont dirigé, c'était une catastrophe.
Mais est-ce
chaque fois. Et ce que je vois, c'est que les déclarations des uns des autres, et notamment, pardon, les déclarations de M. Mélenchon, par exemple, alors, on a, pas des noms, pas de faire chose, mais quand on explique à l'ensemble de la population que les attentats, les assassinats qui ont été perpétrés, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, ont été organisés, pilotés, et ils s'étonnent que ça arrive comme ça, allez l'expliquer, comme j'ai dû le faire à Samuel Sandler, que pour qui son fils, ses petits-enfants...
Vous avez eu cette discussion avec Samuel Sandler ?
J'ai eu cette discussion avec lui, j'étais pétrifié parce que je ne pouvais pas lui donner de réponse autre que, écoute, il a perdu les pédales, ça ne peut pas être quelque chose. Alors lui, il veut aussi que la justice tranche et dise, est-ce qu'on peut, de manière licite, dire des choses, enfin, porter une vision complotiste de la société française.
Aïm Corcia, vous ne donnez pas de consigne de vote, mais on entend clairement que, selon vous, les extrêmes sont clairement identifiés. Là, vous l'avez dit.
Mais je suis en phase avec les grandes institutions juives de France et je suis en phase avec tous les républicains qui disent simplement, quel avenir on propose si on commence soit par éliminer les uns ou les autres de l'histoire nationale, de ce que nous sommes. Une société du rejet ne permet jamais d'intégrer qui que ce soit. Ou alors une société du soupçon. Alors que vous rejetez les uns ou les autres, peu importe vos considérations politiques, dès que vous rejetez, vous n'êtes plus dans le rêve républicain.
Vous venez de parler d'avenir. Et en parlant d'avenir, il y a une jeune femme qui pense qu'elle n'en a plus, à tel point que Mila a déclaré, je cite, « Je vais forcément ne pas rester en vie ». Une telle phrase en France, dans notre pays, comment vous réagissez ?
Je pense qu'il y a une question grave sur les réseaux sociaux. Regardez, là, on voit à quel point mobilisation de méchants, il n'y a pas d'autre mot, sur les réseaux sociaux peut amener au meurtre. D'ailleurs, c'était le cas pour Samuel Paty. N'oublions jamais que Samuel Paty est mort, égorgé, parce que sur les réseaux sociaux, une sorte de chaîne de haine s'est mise en mouvement. Et donc, ne pas en avoir conscience, c'est très grave. Voilà pourquoi j'étais stupéfait que le Conseil constitutionnel sabre, comme il l'a fait la loi Avia, qui allait condamner les providers, les fournisseurs de réseaux, à des lourdes sanctions financières, qui est le seul langage qu'ils comprennent.
Il y a ce problème. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il faut encore expliquer et faire comprendre que le délit de blasphème n'existe pas France ?
Il y a des lois. Et
oui, mais est-ce que tout le monde les comprend ?
Le délit de blasphème n'existe pas, ça veut dire qu'on doit... Alors après, on peut dire c'est bien, c'est pas bien. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut blasphémer. Je dis simplement qu'il faut que les religions, et je peux vous dire que les religions en général, on le recule pour ne pas se considérer attaqué si quelqu'un dit des choses même inadmissibles.
Même si c'est vous comprenez qu'il y a pu y avoir des gens qui ont été blessés par ces propos sur l'islam.
Que les uns ou les autres soient blessés contre l'islam, contre le judaïsme, contre le catholicisme, contre le protestantisme, contre le bouddhisme, contre l'orthodoxe, chacun en prend pour son grade. Mais la réalité, c'est qu'on doit avoir cette sérénité qui permet de bâtir une société. Parce que si vous vous enfermez en permanence dans vos quatre murs en disant « je veux être protégé, je veux pas être agressé », alors à ce moment-là, on fait un confinement généralisé permanent et il n'y a plus de société. Donc en fait, quel avenir, quel horizon nous propose ? Certainement pas celui de l'enfermement.
En tous les cas, un avenir aussi fondé sur nos fondamentaux, nos principes fondamentaux, la laïcité qui ne suppose pas le laïcisme. Est-ce qu'on a trop tendance à vouloir gommer aujourd'hui la parole sacrée dans le débat public et politique ?
D'ailleurs, je ne peux pas vous dire ça à vous qui me recevez aujourd'hui.
Justement.
Et vous avez reçu l'archevêque de Paris.
On ne vous reçoit pas tous les quatre matins non plus.
Non, mais pourquoi ? Je ne demande pas à ce que ni moi ni les religieux soient reçus tous les quatre matins.
Mais est-ce qu'il faut davantage de sacré, selon vous ?
En revanche, regardez quand la cathédrale Notre-Dame de Paris brûle. On se sent tous concernés. Juifs, catholiques, protestants, musulmans, athées. On se sent concernés, c'est notre patrimoine. Donc, vous voyez bien qu'il y a une sorte d'aspiration à la transcendance sur laquelle nous ne sommes pas, évidemment, les seuls détenteurs. C'est la République qui porte cette transcendance. Mais chacun et chacune y apporte sa
Donc
écho.
Ça pourrait participer à l'apaisement du débat public.
Aïm
Corcia dit ce matin que le sacré pourrait participer à cela.
Mais quand on voit par exemple ce que fait le Secours catholique pour des citoyens dans la difficulté, vous allez dire non, c'est Secours catholique, on ne veut pas qu'ils aident. Le CASIP, l'OSE, enfin toutes ces grandes organisations d'inspiration religieuse, les apprentis d'Auteuil, est-ce qu'il y a besoin de dire non, c'est pas possible, vous faites, c'est religieux. On aide. Chacun et chacune doit aider. Et les religions avec les autres. Mais heureusement, nous vivons dans un pays, j'allais dire grâce à Dieu, laïque. Et la laïcité, c'est chacun peut croire ou peut ne pas croire, mais on va tous dans le même sens.
Et c'est toujours important de le rappeler. Et venant de vous, c'est important ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup à Aïm Corcia d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous.
Bonne journée et bonne espérance et bon championnat d'Europe pour l'équipe de France.
Vous ne parlez pas le Nord, hein, ni le Cap. Et bonne journée à nos auditeurs également.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous voyez ce que ça fait ? On le disait en souriant dans les journaux, les gens sur les terrasses, la joie de se retrouver pour un match de foot, c'est aussi ça, cette compétition. Et le journal de l'Euro est à suivre après les infos et la météo. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, l'heure de retrouver Marion Calais, un nouveau point sur l'info.
Une arrivée en France ce matin et un transfert à Nancy en vue d'une mise en examen. Le complotiste Rémi Daillé face à la justice pour son rôle présumé dans l'enlèvement de la petite Mia en avril dans les Vosges. Il avait été expulsé le week-end dernier de Malaisie après expiration de son titre de séjour. En Corse, dans le procès du féminicide de Julie Dwib, le verdict attendu aujourd'hui, son ancien compagnon risque la perpétuité. L'île de Beauté où, après la pollution liée à un possible dégazage, la collectivité de Corse porte plainte au pénal et devant le tribunal administratif pour obtenir réparation. Et puis c'est la rencontre du jour et ce n'est pas du foot. Joe Biden face à Vladimir Poutine, les deux présidents en tête à tête pour la première fois à Genève, avec sur la table de nombreux dossiers épineux, parmi lesquels le sort de l'opposant Alexei Navalny ou les cyberattaques.
Merci Marion Calais. 8h32, Laurent Cabrol avec nous.
Avec
ce front, alors de mémoire, un front orageux de 1000 km.
Oui, alors c'est un front.
Comme ça, ça fait bande-annonce de ciné américain.
1000 km de long, 500 km de large. C'est l'invasion des orages, puisqu'il y a 25 départements en vigilance orange. Il doit y en avoir au moins une quinzaine en vigilance jaune. Bref, seuls pour l'instant, des départements comme l'Aveyron, la Lozère, l'Ain, des régions comme l'Alsace, la Lorraine et le Côte d'Or, Franche-Comté, sont des contrées où nous aurons un petit répit en attendant les orages, probablement la nuit prochaine et demain matin. Mais partout ailleurs, les orages seront présent à partir de la mi-journée. Pour l'instant, il se situe sur les régions du sud-ouest, notamment du côté de Bordeaux. Les températures, en attendant, ces orages seront vraiment au plus haut. 35 à Lyon, Paris, Bourges, 34 à Toulouse, Bordeaux, Niort, Clermont-Ferrand, 31 et 32 à Nancy, Langres, Dijon, Colmar et 29 degrés à Bastia et à Marseille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. À 8h33, le journal de l'Euro. Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre envoyé spécial Europe 1 à Munich, chef du service des sports. Un Euro qui débute idéalement pour l'équipe de France. Les Bleus vainqueurs 1-0 hier soir d'un match à très haute tension face à l'Allemagne.
Oui, c'était la soirée des Bleus de chauffe hein, contre des Allemands qui ont plusieurs fois tenté de pourrir le jeu. Rudiger a mordu Pogba dans le dos. Gossens a mis Pavard KO d'un geste qui ressemblait à celui de Michael Schumacher il y a 40 ans à Séville. L'arbitre est resté de marbre. Mais au final, les champions du monde 2018 ont battu les champions du monde 2014. Un but contre son camp de Mats Hummels en première mi-temps suite à une belle action collective des Bleus. Des Bleus pas mécontents d'ailleurs des signaux qu'ils ont envoyés hier soir à la concurrence à l'image du milieu de terrain Adrien Rabiot.
On savait qu'on était attendu et on sait que c'est ça qui fera notre force. Ce soir, on l'a démontré dans un match où on a souffert aussi par moments. Voilà, cette solidité mentale et collective, on était vraiment très fiers après ce match d'avoir répondu présent de cette manière. Tout le monde a joué avant nous. Et il fallait être là ce soir, montrer, envoyer aussi un message qu'on n'était pas champion du monde pour rien et qu'il faudra compter avec nous.
L'homme du match, c'est Paul Pogba.
Oui, on en parlait ces derniers jours sur Europe 1. Le milieu de terrain de Manchester United a tout d'un patron. Alors hier soir, il a tout simplement survolé la rencontre au point d'impressionner quelqu'un qu'on a pourtant vu d'autres. C'est notre consultant Giroud.
Pogba était très nettement au-dessus de tout le monde. Mais meilleur homme du match, ou meilleur que tous les Allemands, aussi bien par sa présence, par son sourire intérieur là qui nous livrait. Pas d'agressivité répréhensible, une très grosse présence physique, grosse qualité technique. Non, j'ai vraiment aimé son match.
Voilà, notez également la performance très solide de l'autre taulier, celui de la défense, Raphaël Varane, impeccable, impassable, comme ses coéquipiers. Notez aussi les jambes supersoniques de Kylian Mbappé, ouais, qui auraient mérité d'inscrire un but. Et puis aussi, Mathieu, le soutien sans faille des 2000 supporters français en tribune. Tout cela est de très bon augure pour la suite du tournoi.
L'équipe de France qui va mettre le cap sur Budapest aujourd'hui.
Oui, Budapest où devant 70 000 spectateurs, le Portugal a dominé la Hongrie hier soir 3-0 avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur désormais de l'histoire des Euros avec 11 buts. Il a dépassé Michel Platini. Les Portugais et les Français qui sont en tête de ce groupe devant les Allemands et les Hongrois. Le programme des Bleus donc ce mercredi, dernier entraînement munichois à 15h devant une centaine de supporters. Nous y serons. Et puis décollage pour Budapest arrivé prévu dans la soirée et le prochain match ce sera samedi à 15h face aux Hongrois.
On termine avec les rencontres du jour, Jean-François.
Oui, Finlande-Russie à 15h, Turquie, Pays de Galles, 18h, et puis, ce sera notre affiche, Italie-Suisse à 21h, rendez-vous dans Europe 1 Football Club à partir de 20h autour de Lionel Rousseau.
Merci Jean-François. Ah sinon, Jean-François, pardon, d'un mot, oui. Vous êtes plutôt eau ou coca, vous?
Ah, je vois à quoi vous faites référence. C'est Cristiano Ronaldo qui avait nonchalamment dégagé la bouteille de coca pour dire « laissez-moi de l'eau, je préfère l'eau ». Ouais. Exactement, je préfère l'eau pétillante comme les bleus.
La réalité, c'est que la bouteille de coca n'est pas là pour qu'il se désaltère. Elle est là parce qu'ils ont versé des millions d'euros. On va voir ce que Exactement. Donnera cette affaire, le géant Cristiano Ronaldo et le géant Coca-Cola Company. Merci Jean-François Pérez, c'était le journal Bonne de journée. L'Euro, tous les matins sur Europe 1. Dans un instant, notre santé, le docteur Jimmy Mohamed.
Et c'est une avancée médicale majeure, l'intelligence artificielle au service des jeunes pour prédire plus de 80% des comportements suicidaires.
8h36, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1, notre santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Une excellente nouvelle ce matin. Écoutez bien, il serait possible, grâce à l'intelligence artificielle, de prédire les comportements suicidaires chez les étudiants.
Oui, c'est ce que nous apprend cette étude menée par l'INSERM et l'Université de Bordeaux. Les chercheurs ont mis en place, grâce à l'intelligence artificielle, un ensemble d'indicateurs de santé mentale qui prédisent avec précision les comportements suicidaires des étudiants. Pour cela, ils ont suivi plus de 5000 étudiants durant 6 ans et parmi eux, 20% ont présenté des comportements suicidaires. Et grâce à cette intelligence artificielle, ils ont identifié 4 symptômes ou caractéristiques qui ont pu détecter plus de 80% des comportements suicidaires.
Alors justement, quels sont ces critères prédictifs d'un comportement suicidaire ?
Alors, 3 critères sont assez communs à ceux des autres adultes, à savoir de l'anxiété, avoir des pensées suicidaires ou des symptômes de dépression. Mais là où l'intelligence artificielle a pu apporter de nouvelles connaissances, c'est qu'elle a pu mettre en évidence qu'une baisse de l'estime de soi fait partie des facteurs prédictifs de passage à l'acte suicidaire chez les étudiants. En clair, un jeune qui serait mal dans sa peau à cause d'un stress de réussite lié à l'université ou qui aurait peur pour son diplôme, qu'il ne vaille pas grand-chose, notamment à cause de la crise du Covid, ou de ne pas trouver de job à l'issue de sa formation peuvent être des éléments précipitants vers un passage à l'acte.
D'autant que la dépression de l'adulte jeune ou de l'étudiant reste un tabou.
Oui, et c'est vrai que cette année, j'ai essayé d'aborder des sujets un peu plus légers dans la matinale, mais je tiens à vous rappeler l'importance d'une détection précoce des comportements suicidaires pour permettre justement un accès à une prise en charge adéquate. Je vous rappelle que le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans et que les étudiants sont particulièrement exposés à ces risques, et encore plus avec la période Covid qu'ils ont pu vivre en sacrifiant, si on est très honnête, presque 2 années universitaires de leur vie pour les plus anciens. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des questionnaires et des échelles psychologiques pour évaluer l'anxiété et la dépression, qu'il serait possible de diffuser le plus possible dans la population pour dépister le plus précocement les étudiants à risque de dépression, pour mieux les aider, car oui, des solutions et des traitements existent.
Merci Jimmy Mohamed, c'est le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve tous les matins et tout à l'heure de 15h à 16h sans rendez-vous, c'est l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez.
Oui, et un sujet qui pourra peut-être vous aider, Mathieu, on va parler de troubles de l'érection et vous allez voir que là encore, des solutions existent et que ce n'est pas que dans la tête.
Tiens, on parlait de tabou.
Hein, on va enlever un autre.
À tout à l'heure, 15h sur Europe 1, bien sûr, 8h41. Très bon réveil. Notre planète, Fanny Agostini, est avec nous. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler obsolescence programmée et des solutions existent.
Oui, oui, oui. Ne soyez pas trop là. La dernière blague de Jimmy, on la coupera au montage si on n'était pas en direct. Bon, vous nous parlez ce matin, Fanny, de la création d'une carte en ligne qui permet de trouver la ressourcerie la plus proche de chez soi.
Oui, le site du Réseau National des Ressourceries existe enfin. Rappelons déjà ce qu'est une ressourcerie. Il s'agit tout bonnement d'un lieu de collecte, de réemploi et de revente d'objets usagés ou défectueux. Vous pouvez en 30 secondes trouver l'endroit où l'on va pouvoir réparer votre bien, qu'il s'agisse de mobilier ou d'électroménager. Et mieux encore, si vous avez un petit peu de temps devant vous, on va vous apprendre comment le faire vous-même, histoire d'être autonome si une panne survient à nouveau. J'ai moi-même rapporté dernièrement mon grille-pain récalcitrant un matin et je l'ai récupéré comme neuf l'après-midi, réparation et nettoyage compris. Autrement, si vous ne souhaitez pas garder l'objet en question, les ressourceries sont de formidables dépôts qui récupèrent tout, même le textile, des structures qui comportent aussi un aspect social puisqu'elles embauchent des travailleurs souvent en réinsertion professionnelle.
Les ressourceries qui connaissent un boom, on peut le dire, ces 5 dernières années ?
Mais oui, carrément. En 2017, il y en avait plus de 2400. Depuis, c'est l'explosion au point qu'il devient difficile de les répertorier tellement elles poussent partout, sur tout le territoire. Chaque mois, de nouvelles ressourceries naissent en France, d'où l'intérêt d'avoir un site qui les répertorie régulièrement et qui vous permet de les contacter. La région Auvergne-Rhône-Alpes, ma région, étant celle où l'on trouve le plus de ressourceries. Certaines proposent même de
venir chez moi. Vous avez vu la taille de la région aussi ? Enfin, pardonnez-moi, Auvergne-Rhône-Alpes.
c'est vrai, c'est grand. Grand comme l'Irlande. Alors, certaines proposent même de venir chez vous, sur rendez-vous, si vous souhaitez débarrasser votre grenier ou désencombrer votre maison et appartement.
Et cela sonnerait la fin de ce qu'on appelle les encombrants, les objets dont on ne veut plus et qu'on laisse au coin de sa rue ou qu'on apporte à la déchetterie pour certains.
Oui, ce serait quand même un grand pas que notre réflexe à tous soit d'apporter ce qui nous encombre dans les ressourceries proches de chez nous. Depuis leur création, ces fameuses ressourceries évitent que des tonnes d'objets partent à la benne. Rappelons qu'en France, 22 millions de tonnes de déchets finissent brûlés ou enterrés. Autre donnée importante, seulement 16% de la matière que l'on jette arrive dans la poubelle des recyclables. Les ressourceries sont aujourd'hui extrêmement complémentaires au triage des déchets qui est loin d'être la panacée.
Merci Fanny Agostini, notre planète, tous les matins sur Europe 1. Il est 8h43, Julie est là. Bonjour Julie.
Bonjour.
Nicolas Courtois arrive, la revue de presse, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer et regarde la France gagner. Car c'est l'info du jour, vous l'avez compris, cette large victoire, très large victoire 1-0 de la France contre l'Allemagne. Et sans vouloir alimenter la polémique, encore une fois, Mbappé n'a pas fait de passe à Giroud. C'est vrai, noter. Bon, ok, les mauvaises langues diront qu'il n'a pas joué, mais quand même. Allez, l'autre info, c'est Thomas Pesquet, on va partir dans l'espace, qui aujourd'hui va sortir justement dans l'espace pendant 6 heures pour dérouler un panneau solaire. Oui, prendre 6 heures pour faire que ça, dérouler un panneau solaire, en plus, ils sont à deux. En fait, c'est un employé municipal, c'est de l'espace, le gars. Hein. C'est pas autre chose. Et puis, l'autre info, l'info culture, c'est la sortie du film 5e set avec Alec Lutz. L'histoire d'un Français qui réussit, c'est pas facile à dire, l'histoire d'un Français qui réussit un exploit lors d'une compétition de tennis. Et oui, vous l'avez compris, Julie, chers auditeurs, c'est de la science-fiction. C'est le Star Wars du tennis. Il met des balles dans le court. Vous imaginez, le gars, il met des balles dans le court. Il est français et il réussit les services. Bref, les effets spéciaux, vous l'avez compris, dans ce film sont dingues. Voilà, 5e set, sorti aujourd'hui en salle climatisée. Bon, on ne veut pas être lourdeau, mais il y a quand même une séance au Gaumont, à Parnasse, à 10h45. Il y en a une autre à 13h15. Sinon, 5e set, c'est aussi au pâté
Quai
d'Ivry à 14h30. Sinon, non, mais il y a une séance aussi au cinéma Le Village à 20h45. Voilà. C'est vous qui décidez dans quelle salle.
Bien sûr,
c'est vrai.
Ils sont assez fous pour avoir vérifié ça.
Bravo les gars.
Et puis on l'a appris hier, les textes étaient déjà écrits du coup. Et puis on l'a appris hier dans le point.fr. C'est toujours bizarre ce nom, le point.fr. Le point.fr. Mais bref, c'était leur info exclusive d'hier. Europe 1, tenez-vous bien, chers auditeurs. Europe 1 s'allie au groupe Canal+. Un rapprochement va se faire entre les émissions et ça, on trouve ça super génial à la rédaction. D'ailleurs, voici un extrait pour vous en exclusivité sur Europe 1, un extrait de la saison prochaine.
Tiens.
Bonjour à tous, c'est Laurent Cabrol, bienvenue à ce journal du Hard. Un journal du Hard humide aujourd'hui, vous l'avez compris, avec des précipitations, notamment sur les pourtours de l'actrice Tabata Tits. Oui, puis alors surtout pour demain, n'oubliez pas, hein, c'est le PPP, hein, le préservatif par précaution. Voilà, et bien écoutez, c'était la dernière édition du journal du Hard d'Europe 1. Maintenant, on retrouve le film X encrypté tout de suite, chers auditeurs. Et oui, sachez qu'encrypté à la radio, c'est pas terrible, terrible, terrible. Hein. Non, bon.
Ah oui, ça.
Ah oui, quand même, t'as vu, Julie, ouais, quand même. Elle est quand même bonne, hein, Tabata. Hein, Ouais, on prévoit grosse perturbation sur John Smith là.
Oh. Oui, bah, c'est bon Laurent. Hein.
C'est ça. Mis dans l'air et mouillé dans le bain.
Oh là.
On dirait pas osé la faire, mais c'est original la faire.
Il le tient bien son journal du Hard. Hein.
Oui, il tient surtout très très bien la voix de Cabrol, hein, le vrai Cabrol.
Allez, Marine Le Pen a peur qu'Éric Zemmour ne lui fasse du tort. Dans une interview à un site réunionnais, Marine Le Pen a déclaré qu'elle était inquiète que les propos d'Éric Zemmour, qu'elle trouve trop radicaux, soient assimilés aux siens.
Final, groupons-nous et demain, national. Oui, bonjour. Benjamin, je ne connais pas toutes ces paroles. Pas très habitué. Bonjour, Mme Julie. Bonjour. Bonjour à tous. Laurent Cabrol. Ce journal formidable. Fanny Agostini. Bonjour, docteur Buddy Holly-Sliman. Et bonjour à toi, jolie métisse. Oui, oui, tout à fait, vous l'avez dit, Mme Julie, j'ai peur que M. Zemmour me fasse du tort, me fasse du mal pendant cette élection. Contrairement à toi, jolie métisse, toi, tu me ferais beaucoup de bien.
Oh, calmez-vous, allez, allez. Ah, donc, vous trouvez qu'Éric Zemmour est trop radical?
Exactement. Vous l'avez noté, les propos d'extrême droite de M. Zemmour heurte, je dois vous le dire tout de go, ma sensibilité universaliste. Oui, mais oui, 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 mais oui, pas de oui. Hein. Par exemple, Monsieur Zemmour n'aime pas les Noirs. Personnellement, je vais vous dire une chose, Madame Julie, vous l'avez constaté, les métis ne me dérangent pas.
Oui, ça, on a vu. Oui, oui.
Bien sûr, tant qu'ils ne font pas de bruit passé 22 heures. Monsieur Zemmour n'aime pas, je le note, les musulmans dans leur ensemble. Moi, voyez-vous, je ne suis pas aussi tranché. J'aime bien Monsieur Zidane. Éric Zemmour est, disons-le, très raciste. Et cela me choque. Moi, je suis juste un peu. Vous savez, le racisme, c'est bien, mais notez-le avec modération. Et je dis, vive le racisme moyen.
Alors, ce qui vous inquiète, c'est la position d'Éric Zemmour sur l'islam. Hein. Il le considère incompatible avec la République, ce qui n'est pas votre cas.
Oui, parce que je constate que Zemmour n'aime pas les musulmans. Moi, je n'y vois que des inconvénients. Non, pas, 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 enfin, non, monsieur Zemmour, je n'y vois pas. Ma langue a fourché.
Ça,
non,
ça,
je
ça.
N'y vois pas que, oui, le naturel qui revient au galop, au moins au petit trot. Et moi, je n'y vois que des inconvénients de ne pas aimer les musulmans. Exemple, le couscous. Les kebabs, même les éboueurs. Oh. Vous voyez, ce sont quand même de gros avantages. Vous voyez, l'islamophobie à tout va, pourquoi pas, mais pas trop non plus. L'extrême droite ne doit pas être, je le confirme, trop extrême.
Et vous avez peur que les idées d'Éric Zemmour soient assimilées aux vôtres et qu'à cause de ça, votre parti soit, disons, rediabolisé. C'est un peu ça, hein ?
Oui, c'est un peu cela. Vous avez tout compris, même. Je vous lisais entre les lignes. Bah, je ne me suis pas débarrassé, entre vous et moi, du vieux, hein, de Papounet, la GG.
Oh là là,
pour que le farfadet du Figaro vienne me dégueulasser toute ma stratégie marketing. Non, je tiens à ce que les gens se rendent compte que l'extrême droite de M. Zemmour, c'est trop. Voilà. Je ne veux pas qu'elle passe. Je suis prête à faire barrage, je vous le dis, ce matin sur Tantelle, je suis prête à faire barrage à l'extrême droite.
Mais c'est vous l'extrême droite, Marine.
Oui, mais non, plus maintenant. Voilà. Maintenant qu'il y a pire que moi, je deviens la droite, toute simple. Ça, parce que, voyez-vous, il faudrait le dire à vos éditorialistes politiques, à M. Baïtou, et tous la rédaction. Et ça décale tout, voyez-vous. Emmanuel Macron, donc, devient le socialisme, quelque part. Le PS devient le communisme. Jean-Luc Mélenchon devient le stalinisme soviétique tueur d'enfants. Certes, Éric Zemmour m'inquiète, mais en attendant, il me donne l'air beaucoup plus respectable, n'est-ce pas ?
Eh ben, merci beaucoup.
J'en prie.
Merci, Marine Le Pen. On parle maintenant de l'Angleterre qui décale d'un mois son déconfinement.
Et voilà, bien fait pour ta gueule, Boris Johnson.
Oh, mais calmez-vous, Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il y a ?
Non, je me calme pas. Oh. Il a voulu nous emmerder avec ses saucisses. Hein. Mais c'est toi la saucisse, Boris Johnson. Hein. Boris il commence Johnson. À me courir sur le haricot, le roast beef coiffé comme un dessous de bras.
Oh là là là.
Oh oui. Oh, bonjour, c'est Stéphane Bern. Courir sur le haricot. Les Anglais sont des roast beef et coiffés comme un dessous de bras.
Oh là,
dans une seule et même phrase de Bruno Le Maire, j'ai une semaine d'expression à la con à décoder pour des éditeurs d'Europe 1.
Savez-vous qu'en Angleterre, coiffé comme un sou de bras, se dit « to have, pardon, the air like a foufoune ».
Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Bon, merci Stéphane.
C'est pas mal pour mon joint le duard aussi.
Ouais, non, allez, on arrête là, hein, Stéphane, c'est bon. Bruno Le Maire, on revient à vous et on revient à l'Angleterre, qui décale d'un mois son déconfinement, disais-je.
Voilà, mais oui, mais voilà, messieurs les Anglish, hein, messieurs, on est les plus forts, c'est ça, tu parles. Vous avez reconfiné alors que nous, en France, tout est ouvert, on fait des dérogations au couvre-feu, les bars sont bondés de monde qui regardent les matchs de foot et se prennent dans les bras quand il y a un but. Voilà,
ah,
c'est
ouais,
ça la France.
Ouais, c'est pas mal, hein, mais si ça continue, si on continue de faire ça, dans un mois, on va reconfiner aussi. Hein. Les Anglais ont toujours été, ont toujours eu un mois d'avance sur nous, en fait.
Ah oui
hein. Bah oui.
Ma flûte.
Bah voilà.
Oui, c'est pas faux. Vous voulez dire qu'il va falloir encore que j'aide tout le monde et que je sois de gauche à donner des sous partout. Oui, bon, bah alors du coup, faites attention, les gens. Hein. Respectez, j'ai ce barrière, bon sang de bois. J'en peux plus, moi, d'être de gauche et de finir le pognon à tout va.
Bon courage, Bruno Le Maire. À bientôt. Allez, on va parler du match quand même. Hein. Les Bleus ont donc gagné. Didier Deschamps, bonjour et bravo.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, oui, je crois que... Merci, bon, c'est un petit bravo tout de même, hein, parce que quand même un Allemand qui marque,
ah ben oui,
hein, voilà, c'est Mats Hummels qui inscrit cette magnifique reprise. Il faudra d'ailleurs que je pense à le sélectionner pour le prochain match contre la Hongrie, vu qu'il marque quand même, il faut le noter, monsieur Béliard l'a noté, il marque quand même plus que Karim et Kylian.
Alors, vos joueurs souhaitaient mettre un genou à terre hein, en signe de protestation contre les discriminations. Ils n'ont pas eu le temps de le faire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Didier, des critiques qui regrettent l'importation de problématiques américaines? Notre police ici est sûrement moins raciste, et heureusement, que l'américaine. Hein.
Oui, effectivement. Non, je trouve effectivement que le fait que mes joueurs et Giroud soient engagés contre l'antiracisme, enfin contre le racisme, oui, est une bonne chose. Hein. Maintenant, bon, attention, il faut raison garder. Hein. Il ne faut pas leur parler de Rosa Parks, de Martin Luther King ou de Malcolm X. Hein. Non, là, il y a des gros risques de claquage de l'encéphale ou de rupture des ligaments croisés des méninges. Non, attention, mes joueurs et Giroud, ils ont entre 20 et 30 balais, il ne faut pas l'oublier. Hein, l'Amérique, pour eux, ça se résume à la NBA, Fast and Furious, McDonald's et Kim Kardashian.
Alors, soyons sérieux, vous êtes positif pour la suite, Didier?
Oui, vous savez, l'essentiel, moi j'ai toujours eu la même stratégie. Hein, l'essentiel, c'est le groupe, hein, le collectif. Et là, bon, ben, le groupe et Giroud... Vive bien, quoi. Je veux dire, on est unis, on est soudés. Giroud et Olivier, il est uni, il est soudé de son côté. Voilà, on monte tous dans le bus. Olivier, lui, bon, ben, il nous suit en trottinette jusqu'au stade. Parce que c'est quand même important de garder la cohésion du groupe.
Comme vous dites.
Méchant. Nicolas Canteloup et Julie, la revue presse. À retrouver sur Europe1.fr. Bien sûr, on embrasse Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de la revue de presse. 8h56, Philippe Vandel est avec nous.
Oui.
Culture Média va démarrer. Alors, Philippe, depuis, je vais vous dire un truc, depuis, même j'étais gamin, j'étais ado et j'adorais vos t-shirts déjà à l'époque. Mais alors là, c'est du coréen?
Non, pas du tout.
Non,
c'est du chinois. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bah oui, c'est ma question.
Europe numéro 1.
Menteur.
Bah, en Paris?
J'en sais rien du tout.
Sur Europe1.fr, vous pouvez voir la photo du t-shirt. Exactement.
Il est très fort. Culture Média va démarrer, Philippe.
Oui, avec notre invité culture qui sera l'acteur Alex Lutz, également réalisateur, que vous avez vu en Catherine, dans Catherine et Liliane, ou Grimé, en vieux chanteur de variétoche sur le retour dans le film Guy, qui lui a valu le César du meilleur acteur en 2019. Et là, il vient pour la sortie du film 5e set, film absolument formidable, dans lequel il incarne un ancien espoir du tennis français. Mais à 38 ans, l'espoir commence à... Ça fait un peu long quoi, pour être un espoir. Au sommaire également, c'est la nouvelle formule de 20 minutes, le journal le plus lu en France, 22 millions de lecteurs par mois, tout support confondu. On sera avec Frédéric Darouty, le président et directeur de la publication, qui va nous raconter la nouvelle maquette et la nouvelle philosophie du journal. Et puis notre infomédia du jour sera très technique, elle s'intéresse aux droits voisins. Ce sont ces droits d'auteur que les plateformes numériques, notamment Google ou Facebook, doivent verser aux producteurs des articles et vidéos qu'elles utilisent. Évidemment, ça coince qu'il s'agit de gros sous. On en parle avec Alain Auger, c'est le président du syndicat des éditeurs de la presse magazine.
Et c'est Culture Média avec Philippe Vandel et toute son équipe de 9h à 11h sur Europe 1. A tout de suite Philippe, 8h58, je vous laisse, je vous retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.